אנחנו קוראים בתלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', דף ט"ז, עמוד 16, הסתכלות פנימית.
Bonjour, nous lisons l'étude des 10 ספירות, הסתכלות פנימית, la partie 1, nous en sommes à l'article 6.
ביאור על מה שאמרו זה.
פרשת 5, אני בורא.
לכן הוכן עבודה והגיע
על שכר
הנשמות, כימן דאכיל דלאו דילי, בהית להסתכולה בהפי. ולהבין באפס מה, במקום גבוה זה.
C'est au chapitre 1 d'Histaklut Pnimit. Clarification à propos de ce qu'ont dit les sages. Le travail et l'effort ont été préparés pour la récompense des âmes, car celui qui mange ce qui n'est pas à lui a peur de regarder en face. Pour comprendre quelque peu cette place sublime, nous devons approfondir les choses. Nous allons étudier toute la réalité devant nous et sa raison d'être en général. Quelle est la raison pour laquelle le Créateur a créé cette réalité devant nous dans tous les mondes supérieurs et inférieurs? Se pourrait-il qu'il agisse sans raison? En effet, les sages nous ont montré à maintes reprises que tous les mondes n'ont été créés que pour Israël, à condition qu'il y ait observance de la Torah et des mitzvot. Et il nous faut comprendre la question des sages à ce propos. Si l'intention de la création des mondes est de faire plaisir aux créatures, alors pourquoi le Créateur a-t-il créé un monde matériel où il y a tant de souffrances et de problèmes? Sans cela, il aurait pu donner aux âmes autant de plaisir qu'il le voulait. Et pourquoi a-t-il conduit l'âme vers un corps à la fois vil et aussi souillé? Ils ont répondu que celui qui mange ce qui n'est pas à lui a peur de regarder en face. C'est-à-dire qu'en tout cadeau, il y a l'inconvénient de la honte. Et pour épargner à l'âme cet inconvénient, il a donc créé ce monde où il y a la réalité du travail et ils pourront jouir plus tard de leur travail. Ainsi, ils reçoivent un salaire pour leurs efforts et ils évitent le sentiment de honte. Parce que le Créateur est un donneur et que les êtres humains sont des receveurs, les êtres créés sont des receveurs, parce que sinon ce ne seraient pas des êtres créés. C'est pour ça qu'ils ont dû être corrigés pour que même s'ils soient les receveurs, ils deviennent similaires au Créateur qui donne et qu'ils puissent monter au degré du Créateur. Et c'est pourquoi il y a des systèmes ici jusqu'à ce monde pour invertir la réception en raison de la honte en don et que ça devienne par là de l'honneur. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Alors, s'il n'y en a pas, je ne sais pas. Celui qui mange ce qui n'est pas à lui a peur de regarder en face, c'est-à-dire que si quelqu'un mange à partir d'un cadeau gratuit, a peur de regarder la face du donneur, en plus de la création de la honte qui existe en elle-même, avec Nambrina Dalet, qui est la quatrième phase de la lumière directe, qui amène à la cascade de tous les degrés jusqu'à Prina Dalet, mais d'amener la créature au degré du Créateur. Nous devons maintenant créer des choses supplémentaires, et une d'entre elles, c'est la honte, et à partir de la honte, tous les mondes se développent afin de couvrir la honte et l'amène au degré de l'honneur. Alors, continuons. Quel est le rapport entre les 70 ans de travail et le plaisir éternel, puisqu'il n'y a pas de cadeau plus gratuit que celui-là? 7. Ces paroles des sages sont déroutantes et déconcertantes. Tout d'abord, c'est surprenant, car l'essence de notre propension et de notre prière est de nous épargner un cadeau reçu gratuitement. C'est que l'essentiel, ça doit être ceci contre cela, tant que le Créateur donne, je peux recevoir afin de lui donner. Et entre nous, il y a maintenant l'équivalence, précise Rav. Et les sages disent que le trésor d'un cadeau reçu gratuitement est préparé seulement pour les plus grandes âmes de ce monde. Cette réponse des sages est très déroutante. Ils disent que dans ce cadeau gratuit, il y a un grand manque, c'est-à-dire la honte que ressent celui qui reçoit un cadeau gratuit. C'est-à-dire que le Créateur exprès a créé la honte pour que nous puissions faire la différence lorsque nous recevons et lorsque nous recevons afin de donner, précise Rav. Alors, il n'est pas considéré que nous recevons ici et il n'y a pas de honte.
יתלו את שכרם, חלף תרחתם ויגיע כפם, ותרוצם תמוה מאוד.
Et leur réponse est très bizarre, dit Rav. C'est-à-dire qu'il y a en fait deux mondes en apparence, ce monde et le monde à venir, et que ce monde, le monde à venir, nous ne connaissons pas, et véritablement, et celui dans lequel nous travaillons, où nous gagnons un salaire, que nous un profit afin de recevoir cette récompense, et nous faut maintenant nous élever à un degré plus élevé qui s'appelle déjà le monde à venir.
Cette
réponse est très étonnante. Cela ressemble à une personne qui dit à une autre, « Travaille avec moi un instant et je te donnerai en contrepartie tous les plaisirs du monde pour toute ta vie. » On ne peut recevoir de plus grands cadeaux gratuitement. La récompense n'a aucune commune mesure avec le travail, car on travaille dans ce monde transitoire qui n'a aucune valeur. C'est-à-dire que tout comme nous voyons ce monde, toutes sortes de personnes qui observent des mitzvot, dit Rav, n'eût été, si ce n'était que le fait de faire quelques actions et d'observer pour certaines lois, alors nous demeurerions dans la honte, pas comme nos sages l'ont dit, qu'il nous faut atteindre le monde à venir sans honte. Alors probablement que ce monde n'est pas ce que nous pensons, et le monde à venir n'est pas non plus ce que nous pensons, et le travail n'est pas non plus le même travail dans la Torah et Mitzvot que nous voyons ici en ce monde, mais il y a quelque chose de plus ici qu'il nous faut investiguer. Mais certainement qu'à la fin, il nous faut faire de telles actions qui nous mèneront à la perfection et au fait d'être éternel et à la perfection avec le Créateur. On ne peut recevoir de plus grands cadeaux gratuitement. La récompense n'a aucune mesure avec le travail, car on travaille dans ce monde transitoire qui n'a aucune valeur par rapport à la récompense et au plaisir du monde éternel. Quelle valeur peut avoir ce monde face au monde éternel? Et ne parlons même pas de la qualité de l'effort, laquelle n'a aucune valeur par rapport à la qualité de la récompense, comme il est écrit que le Créateur donnera à chaque juste 310 mondes, etc. On ne peut pas dire que le Créateur donne une partie de la récompense pour le travail et le reste comme un cadeau à faire gratuitement. Car à la fin, quelle utilité y aurait-il ici s'il y avait toujours le défaut de la honte pour le reste du cadeau? Et il ne faut donc pas prendre ces mots des sages au pied de la lettre, car il existe là une intention profonde. Des questions? En ce monde, ici, y a-t-il un effort? Y a-t-il du travail? Mais quoi? Que veux-tu dire par « en ce monde »? Mais le monde corporel? Mais dans la matière elle-même, oui. Qu'est-ce que tu appelles le labeur? C'est qu'en ce monde, comme nous le voyons, Il y a le minéral, le végétal, l'animal et les corps de l'homme qui appartient aussi au degré animal et c'est tout. Alors, il n'y a pas d'effort en ce monde? Je ne sais pas ce qu'est l'effort, dit Rav. Je te dis ce qui existe en ce monde. Il y a des corps matériels. Et quoi veux-tu faire avec eux? Les faire travailler? Ils vivent. Mais où commence leur labeur, disons? Notre labeur commence lorsque nous faisons des actions qui sont contre notre désir. Et le temps de la préparation aussi, c'est contre le désir? Mais je ne sais pas, dit Rav. Ce n'est pas... La définition est simple. Des efforts, ça veut dire que je travaille contre mes désirs. Maintenant, tu me parles du temps de la préparation, pas le temps de la préparation, mais pourquoi veux-tu mettre ici un tel discernement que tu ne sais même pas quand oui et quand non? Mais parce que je ne sais pas quand oui et quand non, et moi, je demande simplement pour clarifier la chose. Parce que chaque action qui est contre le désir, qui est de surmonter le désir pour atteindre le but et l'équivalence de forme, ça, c'est appelé un effort. Et c'est tout. Et le fait que tu as besoin de la lumière qui corrige, de la dizaine, de toutes ces choses. Maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec ce monde? Mais quoi, toi et quelques autres corps? Non, mais il dit ici que vraiment la Torah et les mitzvot, c'est-à-dire qu'il faut faire une correction. Alors la question, c'est jusqu'à ce que tu aies la correction pratique, c'est comme si tu n'avais pas d'effort. Je ne sais pas ce que tu veux dire quand tu dis Torah et mitzvot, dit Rav. Mais la mitzvah, c'est la correction de chaque désir afin de donner. S'il n'y a pas de l'action, il n'y a pas d'effort. Oui, tu as raison, dit Rav. Alors ça n'a rien à voir avec ce monde, comme toi, tu vois les corps. Mais plutôt, l'état du désir de recevoir, c'est de travailler et de s'élever au-dessus de lui-même et de ressembler au désir de donner. Et ça, c'est d'être dans la foi au-dessus de la raison et de donner au-dessus de la réception. Et si une personne fait des efforts pour en arriver là, alors là, nous appelons ça des efforts. C'est tout? Il n'y a pas d'autres questions? Ça, c'est ce que nous appelons l'effort. Et certainement, que ça n'a rien à voir avec ce monde lorsque nous regardons les corps. Non, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il me faut être ici pendant 70 ans et ainsi de suite. Non, c'est ça. Nous parlons de désirs et de comment les désirs sont opérés. Alors certainement que ce n'est pas comme un kabbaliste dans la religion ou lorsque j'ai fait toutes sortes d'actions pendant les 70 ans de ma vie, alors par là, je vais recevoir la récompense du monde à venir. Parce qu'il est écrit que ce que je fais comme travail ici, je travaille afin de me corriger. Et si je ne me suis pas corrigé, alors rien n'arrive. Si je me suis corrigé, alors c'est tout. J'ai déjà complété mon travail. Si j'ai fait toutes sortes d'actions, il se pourrait que je me sois constamment que j'ai fait certaines actions, mais je n'ai pas fait d'action pour en arriver à l'équivalence de forme avec le Créateur. Alors c'est comme si je n'avais rien fait. Et c'est pourquoi le fait que tu travailleras en ce monde et que tu recevras une récompense dans le monde à venir, ce n'est pas simplement, ça n'a pas simplement à voir avec le temps qu'une personne est ici, qu'elle a fait toutes sortes de choses et qu'elle meurt et qu'elle reçoit le monde à venir. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que la personne n'a pas changé. Et c'est pourquoi elle pense que là, elle mérite le monde à venir. Mais elle n'est digne de rien, cette personne, parce que tout ça, ça a à voir avec l'équivalence de forme. Et si elle n'a pas égalisé ses formes afin de donner, Alors, cette personne n'a pas le monde à venir. Le monde à venir, c'est le monde du don, un état de don. C'est comme il est écrit, tu devras voir ton monde dans ta vie, atteindre cette chose ici, peu importe de quel monde physique nous parlons. Il y a des kabbalistes qui, dans le passé, vivaient aussi en ce monde, pendant qu'ils vivaient en ce monde et avec dans leur corps, ils ont néanmoins atteint Atzilut. Ça ne dépend pas du corps corporel du tout. Ce monde, il est considéré que nous opérons avec le désir de recevoir afin de recevoir, et le monde à venir est le monde du don. Et ce monde est appelé le monde de Malchut, et le monde à venir est appelé le monde des Bina. Ce monde est date, la raison, et le monde à venir est appelé la foi au-dessus de la raison. Alors, ce n'est pas une question de temps, mais de recevoir ou de donner. Et dans quel état est-ce qu'une personne se trouve réellement? Est-ce que c'est clair, tout ça?
Pourquoi
est-ce que Baal HaSulam, parfois, c'est comme s'il lançait un appât comme ça, qui disait que le désir de recevoir, ça vaut la peine, il y a un si grand plaisir, et... Non, montre-nous ce que tu veux demander. Il donne ici un exemple où il dit même que relativement au plaisir éternel dont il parle ici, il y a 310 mondes, pourquoi est-ce que ça, il faudrait travailler au-dessus de la raison? Mais oui, il faut, parce que ça te dérange parce que tu ne comprends rien à ce propos, dit Rav. Mais au contraire, c'est que il est très précis, le Baal HaSulam, et suivant certains points qu'il donne, et pour que tu puisses te vérifier, pour être sûr que tu ne commets pas d'erreur. Et c'est parce que tu ne connais pas ces concepts qu'ils te confondent. Mais moi, non, ce n'est pas le cas. Avec moi, c'est comme si peut-être qu'il doutait, mais il a ajouté maintenant quelques points. Maintenant, je suis certain que je comprends correctement. Mais parce que oui, de mon état inférieur à moi, il me semble que ça vaut la peine pour toi de te laver les mains 70 fois par jour et tes pieds, et c'est comme si c'était contre le désir de recevoir, que ça en valait la peine, et que là, maintenant, tu le veux naturellement y arriver. Tu vas t'y habituer, c'est le langage de nos sages. Mais c'est la même chose et pas la même chose à la fois. Non. Ce qu'il essaie de dire ici, dit Rav, c'est que ce qui est écrit dans les livres, nous ne devrions pas croire que ça arrive ici, devant nous, dans le monde corporel, et qu'il y a des choses ici qui, en tout et partout, que la sagesse de Kabbale parle de ce monde. Non, il n'y a pas un seul mot dans la Torah qui parle de ce monde. Et dans la Kabbale, certainement pas non plus. Non. Et qu'y a-t-il de... Que nous faudrait-il dire ici qu'il y a une matière qui est complètement afin de recevoir? Mais l'allégorie qu'il donne ici, simplement, il dit qu'il vaut la peine d'atteindre le monde à venir parce que c'est mieux. Mais ça, c'est clair, dit Rav. Mais pourquoi mettre un obstacle? Après tout, il ne faut pas penser à tout ça. Mais quel obstacle, dit Rav? Mais faire le travail au-dessus de la raison et... Non, c'est parce que je veux le monde à venir, dit Rav, que le Créateur a créé toutes ces choses et à partir de la pensée de la création pour faire le bien à ses créations. Et afin de faire le bien à ses créations, la créature doit être avec le Créateur et dans l'attribution et l'identification et l'équivalence, parce que ça, c'est un signe d'une direction vers le meilleur état possible, parce qu'il est similaire au supérieur et il est dans le meilleur état possible. Alors, simplement bon, il n'y a rien de mieux. Et simplement pour apporter l'être créé à cet état, comme le Créateur, et qui est appelé d'être en adhésion avec le Créateur, la créature doit avoir deux discernements. C'est d'une part, elle a besoin d'être afin de recevoir dans la qualité de la réception, et d'autre part, elle doit être dans la qualité du don, parce que c'est un être créé, ce n'est pas le créateur. Et elle ne peut exister que dans une seule qualité, parce que dans une seule qualité, la créature n'a pas de sensation. Toutes nos sensations sont construites sur une chose et son opposé. C'est l'avantage de la lumière sur les lumières. Alors, on ne peut en arriver à un état de satiété simplement si nous sommes affamés. Alors, la créature, à la fin, doit comprendre à la fois la forme opposée du créateur et la forme similaire au créateur. Et là, si la forme similaire au créateur va régner sur la forme qui est opposée au créateur, alors elle sera dans la perfection et similaire au créateur. Et ça, c'est appelé dans la foi au-dessus de la raison et dans le don au-dessus de la réception, et ça c'est appelé de donner afin de recevoir et ainsi de suite. Mais si la forme finale doit être telle, alors il nous faut maintenant apporter la créature à travers toutes sortes, la faire passer à travers toutes sortes de situations jusqu'à cet état. Et c'est ce que nous apprenons et comment le créateur y arrive, mais c'est comme il n'y a pas de question ici. Pourquoi est-ce que ça se fait? Comment est-ce que ça se fait? Mais voit que ces choses sont nécessaires parce que le créateur prend la fin de la création, le but, et il voit que l'être créé est là dans une forme comme lui, comme le créateur, et là il est déjà nécessaire de construire toute la chaîne d'état dont aura besoin l'être créé pour en arriver jusque là, et c'est-à-dire que tout le chemin est constructif. Alors, pense-y un peu et tu verras que ce n'est pas possible d'y arriver d'une autre façon. D'accord. Maintenant, je ne sais pas si il y a une question que j'aimerais vraiment, vraiment connaître et j'espère l'obtenir. Et lorsque la leçon est terminée, j'aimerais me retrouver dans ce même état, mais il y a quelque chose qui ne m'a pas laissé creuser tout ça. Mais ces choses ne sont pas encore en toi comme vivante et tu ne ressens pas encore tes discernements. Mais dans la leçon, c'est intéressant pour moi d'une certaine façon. Oui, mais plus tard, ça ne demeure pas parce que tu ne le vis pas encore. Mais comment est-ce que je devrais continuer aussi, petit Rav? Mais ça viendra avec le temps, dit Rav. Ces choses doivent se mettre en place dans ton désir de recevoir, et c'est comme ça avec toute la sagesse de la Kabbale et en général avec toutes les sciences. Et aussi, si tu apprends une certaine science jusqu'à ce que ça se mette en place en toi et que tu la reconnaisses et que tu la ressentes, et tant que tu ne puisses construire des modèles dans ton cœur et ton esprit pour cette science, tu n'y arriveras pas. Mais toi, tu dis qu'il ne faut pas être dans cela toute la journée, de penser à ces choses, et faut être en cela toujours davantage, et là, ça le développe une personne davantage, mais après la leçon, l'intérêt pour la chose, tout d'un coup, on dirait que ça disparaît, et je ne peux plus y penser parce que ça n'a plus comme d'importance, d'où avoir un tel désir. Mais ça viendra, dit Rav, ce qui demeure, demeure, ce qui ne demeure pas, ne le demeure pas, peu importe, fais confiance à la Providence supérieure, qui prend soin d'une personne, et une personne, on doit lui donner une certaine somme d'efforts requises, et ensuite, tout ce qui arrive, c'est à voir avec la racine de l'âme, et c'est ça qui va prendre le dessus et fonctionner, et fait confiance au Créateur. Nous passons à l'article 8. Toute la réalité émane et a été créée à partir d'une seule pensée, qui est à la fois l'opérateur, l'opération, la réalité de la récompense attendue et l'essence même de l'effort. Alors, il veut maintenant répondre en apparence à cette question, dit Rav, de comment se fait-il que nous travaillons d'une façon aussi brève et que nous recevions des plaisirs éternels et infinis. 8. Avant d'entreprendre une explication de ces choses, il faut comprendre que dans la pensée du Créateur, dans la création des mondes et de la réalité devant nous, les actions n'ont pas été conçues par de nombreuses pensées, comme c'est le cas pour nous, car il est un, unique et unifié. Et comme il est simple, les lumières qui proviennent de lui sont simples et unifiées, sans aucune multiplicité de formes, comme il est écrit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, ni votre chemin mon chemin. » Vous devez donc comprendre et savoir que tous les noms et appellations, ainsi que tous les mondes supérieurs et inférieurs, sont tous une seule lumière simple, unique et unifiée. Chez le Créateur, la lumière qui s'étend, la pensée, l'opération et l'opérateur, et toute chose que le cœur peut penser et clarifier, sont chez lui une seule et même chose.
שבמחשבה אחת נאצלה ונבראה כל המציאות הזו.
Vous pouvez donc juger et comprendre que toute cette réalité, supérieure et inférieure, jusqu'à sa complétude, à la réparation finale, émane et a été créée par une seule pensée. Oui, tout ce genre de discernement en nous, ils sont multiples, mais dans le désir de recevoir, ils ne sont qu'un, précise Rav. Cette seule pensée réalise que toutes les opérations, elle est l'essence de toutes les opérations, le but, l'essence et l'effort. Elle est par elle-même toute la perfection et la récompense recherchée, comme le Ramban l'explique, selon le principe de un, unique et unifié. C'est-à-dire que tout est dans une seule pensée, la pensée de la création, dit Rav, qui est incluse et opère tout, incluse en tout et opère tout. Et en passant, il est intéressant, j'ai entendu lorsque j'ai parlé avec certains scientifiques, et ici, qui venait, que aussi, c'est ce qu'il ressentait dans l'espace. Les étoiles et ainsi de suite, tout ça, c'était une pensée et c'était intéressant d'entendre tout ça. Et c'est comme ça qu'il le ressentait aussi, que tout n'était qu'une pensée. Bien, bien. Y a-t-il des questions? Alors, quelle est la pensée? La pensée de la création, mais alors là, nous parlons de quelque chose d'autre, mais la pensée de la création, c'est qu'il y a un plan, une pensée. C'est-à-dire qu'il y a au-dessus de toutes les actions et toutes les actions émergent de cette pensée et viennent déjà et clarifient la matière et les actions en elle, etc. Mais la pensée, c'est la chose supérieure. Il y a une pensée générale qui... Mais ce n'est pas de la matière, dit Rav, et ce n'est même pas une force, c'est avant une force. Premièrement, c'est une pensée, et ensuite, premièrement, c'est une force, et ensuite, à partir de la force, il y a l'exécution, et à partir de là, nous en venons à la matière, et à partir de la matière, d'autres forces y viennent, et tout ça, ça nous amène à la fin de la correction. À partir de cette pensée, mais tout n'est parti que d'une pensée. Alors, le Créateur est une pensée qui inclut tout, et à partir de là, une force en sort. Et mais c'est quoi cette force? Quelles sont ses actions et la chose matérielle et quoi ce n'est pas inclus tout ça dans cette pensée? Mais quoi? Demande Rav. Le Créateur se relie à nous et est décrit comme la pensée de la création pour bénéficier à ses créatures. Plus que ça, nous ne le connaissons pas. Mais tout le reste, c'est ce qui est en dessous de la pensée de la création, toutes les choses matérielles et les actions. Et ça, déjà, ce n'est pas associé avec le Créateur, dira. Ça, ça a à voir avec la créature, mais ce n'est pas nécessairement le désir de recevoir tous ces systèmes, les quatre phases de la lumière directe et toutes ces choses. Ça n'appartient pas à la créature, au Créateur. Le Créateur, c'est que il n'y a que cette pensée initiale et ça nous apparaît de cette façon et Shoresh remplit les quatre prinotes de la lumière directe. Mais alors, c'est quoi si ça n'appartient pas au Créateur? Mais c'est à la créature, à la création, tous les mondes, dira, toutes les forces dans tous les mondes, tout ça, ce n'est pas associé au Créateur. Le Créateur est la force supérieure qui, envers nous, est comme cela. Il y a d'autres discernements, mais nous ne parlons pas d'eux. Il y a la force supérieure, la pensée supérieure, à partir d'où tout émerge. Prinat Shoresh. Alors nous aussi, toute la création, nous devons être transformés en pensée pour... si nous retournons au Créateur, nous devenons sa pensée, oui. Et de toutes les façons, tu n'existeras que dans ses pensées. Mais alors, c'est quoi cette pensée qui retourne au Créateur et devient comme le Créateur? Ça complète le Créateur ou ça ne le fait pas? Ou... Ah, tu peux penser autant de questions que tu veux. Ça ne t'aidera pas parce que tu ne comprendras pas les réponses. Est-ce que tu comprends toi-même que tu ne comprendras pas, que tu ne saisis pas ces choses? Comment serait-il possible de les saisir si elles ne sont pas encore dans ton désir? Si ce n'est pas dans ton désir, ce n'est que de la philosophie. Mais nous voulons ressembler au Créateur, d'être comme lui, d'atteindre son degré. Dans le don, dit Rav, et dans un don actif, ça, nous le faisons dans la matière, dans notre désir. Continuons. Article 9. La restriction explique comment une opération imparfaite est issue d'un opérateur parfait. Dans les preuves... Dans les premiers chapitres de ce livre, le Rav, Ari, nous explique longuement que la première restriction est le sujet le plus important et le plus grave, car il est évident que les corruptions et tout ce qui manque, y compris tous les défauts, viennent aussi du Créateur, comme il est écrit, Yotzer Or Ubore Choshesh. Il forme la lumière et crée l'obscurité. Ainsi, ces corruptions et cette obscurité sont vraiment opposées au Créateur. Comment est-ce donc possible que l'une sorte de l'autre et comment peuvent-elles se trouver avec la lumière et le plaisir de la pensée de la création? C'est-à-dire comment toutes sortes d'actions peuvent cascader, dit Rav, partir d'en haut, et toutes sortes d'actions se révèlent, et toutes sortes de corruptions, et elles viennent vraiment d'en haut. Alors comment est-ce que c'est possible que tout ça vienne du Créateur? Et nous ne pouvons pas dire qu'il y ait deux pensées différentes. Alors comment est-ce possible que tout cela sorte du Créateur et arrive jusqu'à ce monde plein d'ordures, de douleurs et de saletés? Et comment est-ce possible qu'elles s'intègrent ensemble dans une seule pensée? C'est que si le Créateur existait, certainement que le monde ne serait pas aussi mauvais. C'est ce que nous pouvons entendre. Si le Créateur est le bon qui fait le bien, alors comment tous ces désastres dans le monde, d'où peuvent-ils venir? Si le Créateur est la force qui gère tout, comment serait-il possible que de telles choses arrivent? C'est-à-dire que certainement, tout ce qui est devant nous a cascadé à partir d'en haut. Et il est sûr que tout vient du Créateur et certainement le Créateur, où est, qui est-il? Il est la source de tout ce qui arrive et même ce qui arrive de si mauvais. Mais c'est-à-dire que même une personne ne pourrait pas planifier une telle chose comme lui le fait. Alors comment se peut-il que... Qu'est-ce qui arrive ici? Et c'est pour ça qu'il y a un autre problème ici. Ce n'est pas simplement que nous entendons ici les plaisirs éternels, la récompense, la punition et toutes ces choses. Non, mais plutôt que les choses dans lesquelles nous sommes prises dans ce monde, dans notre vie, où si nous ne recevons pas pour le Créateur, nous découvrons un monde mauvais et nous existons dans ce monde mauvais et nous-mêmes, nous sommes mauvais. Et tout cela, on ne peut pas l'arranger, on ne peut pas le trier, parce que ce n'est pas saisissable de la bonne façon dans notre esprit. Alors, c'est ce qu'il dit. La question du Tsimtsum clarifie comment, à partir du l'opérateur complet, des opérations imparfaites peuvent en venir. Alors, il nous faut clarifier tout ça. Comme si le Créateur était entier et que... Est-ce que c'est clair? Y a-t-il des questions? Et ce n'est qu'une question pour l'instant. Il ne clarifie pas tellement. On peut le relire à plusieurs reprises et voir qu'il n'y a pas vraiment une réponse, mais des questions qui sont vraiment essentielles et très signifiantes. Nous passons maintenant au chapitre 2, qui explique la pensée de la création. 10. Maintenant, nous allons expliquer la pensée de la création. Il est certain que toute la fin de l'action commence par une pensée préliminaire. Parce que même pour un homme en ce monde qui a beaucoup de pensées, la fin de l'action commence aussi par sa pensée. Par exemple, s'il construit sa maison, il est évident que sa première pensée était relative à la forme de la maison qu'il veut habiter. Donc, l'homme a beaucoup de pensées et d'actions jusqu'à ce qu'il arrive à cette forme finale. Et cette forme apparaît lorsque l'action est terminée. Vous voyez donc que toute action commence par une pensée préliminaire ou initiale. La fin de l'action, qui est le but pour lequel tout cela a été créé, est de faire plaisir aux créatures. Comme c'est écrit dans le Zohar, on sait que la pensée du Créateur se termine, elle agit instantanément, car il n'est pas homme ayant besoin d'agir, mais sa pensée elle-même réalise instantanément toute l'action. Il est donc clair que lorsque le Créateur pense à la création pour faire plaisir à ses créatures, cette lumière se propage de lui instantanément avec la forme, le niveau et toute la mesure des plaisirs inclus dans cette pensée qu'on appelle la pensée de la création. Comprenez bien cela, car les sages ont été brefs là-dessus. Sachez qu'on appelle cette pensée de la création la lumière d'Ein Sof, l'infini, car pour ce qui est de son essence divine, nous n'avons aucun nom pour le définir. Alors le supérieur de tous est la pensée de la création, dit Rav, à partir d'où tout origine. Et cette pensée de la création, nous l'appelons la lumière d'Ein Sof. Ou la Prinat Shoresh est dans les quatre phases de la lumière directe et de tout ça, tout émerge de la racine. En elle, toute la réalité existe et nous existons dans cette réalité à partir de la pensée. Et il ne change pas et il ne fait qu'établir pour que ça existe et que tous les êtres créés existent en elle et que tout soit dans leur forme finale. Il n'y a pas de changement là. C'est que le Créateur veut bénéficier à ses créatures dans une seule pensée. et dans d'un seul coup, et voilà, et c'est fait. Et il n'y a rien de plus. Alors néanmoins, pour ce qui est des êtres créés, pour ce qui est de leurs sensations, parce que elles sont dans le désir de recevoir, dans les clipotes, vis-à-vis d'elles, il y a nécessairement un processus qui doit se mettre en branle d'une façon difficile pour elles jusqu'à ce qu'elles atteignent la pensée de la création. Mais en elle-même, elle commence... Est-ce que c'est clair? Lorsque nous pensons à la création, à son essence, nous ne pouvons pas parler de l'essence d'Atzmuto, dit Rav, parce que nous ne comprenons pas. Nous nous tournons vers notre racine et la racine n'est pas Atzmuto, n'est pas l'essence. Atzmuto, c'est le désir de bénéficier. Mais aussi l'équivalence de forme, ça vient de la pensée de la création. Encore une fois, demande Rav, l'équivalence de forme, ça aussi, c'est avec la pensée de la création. Et l'équivalence de forme est avec la pensée de la création, oui. Tout comme il veut me faire profiter, je dois en venir à un état où moi aussi, je veux le faire profiter. D'accord? Bien. Ah, c'est la fin de la journée, je peux voir que... Ah, un peu plus. Article 11. Le désir de donner chez l'émanateur engendre nécessairement le désir de recevoir chez l'être émané, qui est le récipient dans lequel l'être émané reçoit son abondance. C'est ce que dit le Rav, le Hari, qu'au début, la lumière de l'infini remplissait toute la réalité. Comme le Créateur a pensé faire plaisir aux créatures, et comme la lumière se propageait et sortait soi-disant de lui, le désir de recevoir ce plaisir a été immédiatement imprimé dans cette lumière. Notez que ce désir est toute la mesure de l'ampleur de la lumière qui se propage, c'est-à-dire que la mesure de sa lumière et de son abondance équivaut à la mesure dans laquelle il veut faire plaisir, ni plus ni moins. L'essence de ce plaisir de recevoir, qui est imprimé dans cette lumière par la force de sa pensée, est appelée le lieu ou l'endroit. Quand on dit, par exemple, qu'une personne a de la place pour recevoir une livre de pain et qu'une autre personne ne peut pas manger plus d'une demi-livre, de quelle place parle-t-on? On ne parle pas de la taille des intestins, mais de l'amplitude du désir de manger. Vous voyez que la mesure de la place pour recevoir le pain dépend de l'ampleur du désir de manger. C'est encore plus vrai dans la spiritualité, où le désir de recevoir l'abondance est le lieu de l'abondance, et que l'abondance est mesurée selon l'ampleur du désir. C'est en fait le résumé de tout cela, de cet effort, c'est qu'un endroit est appelé un désir et la taille de l'endroit dépend de l'intensité du désir. Alors nous ne parlons pas d'un endroit physique nécessairement, en termes de longueur et de largeur ou de cubes carrés, non. C'est, nous parlons ici d'un désir et ça détermine la taille d'un endroit. Bina Gimel, Brina Dalet, c'est comme ça que nous définissons le désir, l'endroit. Et il se pourrait qu'une personne ait un endroit vide, disons, parce que dans son estomac, mais et c'est comme s'il ne veut pas, il ne voulait pas manger, et l'endroit lui-même ne dit rien s'il n'a pas un désir. L'endroit, c'est pourquoi dans la spiritualité, l'endroit est une carence, et la taille de cette carence, et l'ampleur de cette carence, c'est ce qui définit l'endroit chez la créature. Article 12. Le désir de recevoir inclus dans la pensée de la création est sorti de son essence par le nom d'Ein Sof. 12. Vous pouvez donc comprendre que la lumière d'Ein Sof infinie est sortie de son essence, pour laquelle nous n'avons aucun nom, car elle est définie par le nom de lumière d'Ein Sof. Il en est ainsi du fait du discernement précédent que cette lumière inclut le désir de recevoir de son essence, qui est une nouvelle forme qui n'est pas du tout incluse dans son essence, car de qui pourrait-il recevoir? Cette forme est également toute la grandeur de cette lumière, étudiez bien cela, car on ne peut pas élaborer ici. C'est-à-dire qu'il y a la pensée de la création de faire le bien à ses créatures, et il y a un désir qui est prêt à recevoir ce bénéfice, et sauf les deux, il n'y a rien d'autre qui est nécessaire, c'est suffisant. Et c'est-à-dire de bénéficier à ces êtres créés, c'est un désir de donner, un désir qui a été créé du fait de bénéficier à ces créatures, et les créatures sont le désir de recevoir, et nous avons maintenant la créature et le créateur, et les deux existent, et avec ces deux-là, l'ensemble de la création existe. D'accord? Continuons. Article 13. Avant la restriction, la disparité de forme du désir de recevoir n'était pas discernable. Cependant, dans sa toute-puissance, cette nouvelle forme n'aurait pas été considérée comme un changement de sa lumière, comme il est écrit qu'avant que le monde n'eût été créé, lui et son nom étaient un. Lui renvoie la lumière qui se trouve dans Ein Sof, et son nom réfère au lieu qui est le désir de recevoir de son essence, inclus dans la lumière d'Ein Sof. Il nous dit, lui et son nom sont un. C'est-à-dire que dans son nom, qui est Malchut d'Ein Sof, qui est le désir, c'est-à-dire le désir de recevoir implanté dans toute la réalité qui a été incluse dans la pensée de la création avant la restriction, on ne discerne aucune disparité de forme avec la lumière qui le remplit. La lumière et le lieu sont réellement un. S'il y avait eu un changement ou un déficit dans le lieu de la valeur de la lumière d'Ein Sof, il y aurait alors eu deux discernements. C'est-à-dire que dans les quatre phases de la lumière directe, il y a toujours quatre phases qui sont dirigées par l'or yachar, la lumière directe. Et qu'y a-t-il dans la lumière directe? Tout appartient à la lumière. Il n'y a toujours pas de kli là, il n'y a pas de désir, mais tout est la lumière qui apparaît et qui travaille sur le désir qui est en elle jusqu'à ce qu'elle engendre le désir à partir de l'intérieur. Et maintenant, nous avons l'être créé, mais pas avant. Article 14. Tzimtzum signifie que Malchut d'Ein Sof réduit le désir de recevoir en elle. La lumière disparaît donc, car il n'y a pas de lumière sans récipient. Ceci est la restriction. Le désir de recevoir inclus dans la lumière d'Ein Sof, appelée Malchut d'Ein Sof, qui est la pensée de la création, qui se trouve dans Ein Sof et qui inclut toute la réalité, cette Malchut s'est parée pour s'élever et arriver à l'équivalence de forme avec son essence. C'est pour cette raison qu'elle réduit son désir de recevoir son abondance dans Prina Dalet, du désir, avec l'intention que par cela tous les mondes émaneront et seront créés jusqu'à ce monde-ci. De cette façon, le désir de recevoir sera corrigé et reprendra la forme du don, ce qui l'amènera à l'équivalence de forme avec l'émanateur. Voici qu'après avoir réduit son désir de recevoir, la lumière se retire, car nous savons que la lumière dépend du désir, et le désir est l'endroit de la lumière, car il n'y a pas de contrainte dans la spiritualité. C'est-à-dire que tout, dans Prina Dalet, le désir est devenu, puis il y a eu la restriction, et à partir de cet état, vers l'avant, nous avons l'être créé, auparavant, nous n'avions pas la créature, et la restriction vient non pas juste comme ça parce qu'elle veut recevoir la lumière, mais parce que ne pas recevoir la lumière, c'est... Elle n'absout pas d'avoir quelques problèmes que ce soit parce qu'elle ressent, c'est entre elle et l'émanateur. Et c'est pour ça que de restreindre son désir de recevoir ne l'aidera pas, mais qu'elle doit en venir à l'équivalence de forme. C'est pourquoi Malchut d'Ein Sof, qui a diminué son désir de recevoir et passé à travers cette restriction pour faire certaines actions, son action, c'est d'en arriver à l'identification et à l'équivalence avec le Créateur. Et c'est pourquoi, à partir de la restriction vers l'avant, toutes les actions ne se font que jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire que la fin d'une action est dans la pensée initiale afin d'atteindre la dvikut. Et c'est ce qu'elle ressent dans Malchut d'Ein Sof complète, qu'elle ne manque pas du désir ni plus ni moins, sauf celui d'être en adhésion avec le Créateur. C'est-à-dire que d'une part, de recevoir infiniment, elle fait son désir et elle n'exécute pas son désir. C'est-à-dire qu'ici, il nous manque un peu de travail de sa part pour que cette réception devienne à fin de donner. D'accord? Est-ce qu'on peut recevoir à l'article 12 le désir de recevoir qui est inclus dans la pensée de la création, qui a émergé de son essence jusqu'à la Brina Yudbet? Qu'est-ce que ça veut dire? Le désir de recevoir qui est inclus dans la pensée de la création, mais qui se révèle dans Prina Dalet, dit Rav, prend cette Prina Dalet du concept d'Ein Sof. Il fait une restriction sur elle, le désir de recevoir qui est inclus dans la pensée de la création. C'est inclus dans la pensée de la création. Sans cela, la pensée de la création n'existerait pas non plus, parce qu'il faut déjà qu'il y ait une pensée pour bénéficier aux créatures futures. Alors, ce désir de recevoir a pris à l'extérieur de lui afin de le nom pour nommer Ein Sof, c'est-à-dire que le désir de recevoir qui est survenu a déjà mené au désir de recevoir qui a été créé par la lumière, à un nom spécial, un état spécial qui s'appelle Ein Sof, où il y a un cli ici et la lumière est d'une façon infinie, c'est-à-dire sans limitation, où on identifie le désir de recevoir versus le désir de donner, et ça, cet état s'appelle Malchut d'Ein Sof. Dans Malchut d'Ein Sof, il y a un don de la part du Créateur et il n'y a rien qui manque de sa part. Et en cela, en apparence, il a comme terminé de se soucier de la créature, mais la créature, elle n'est pas d'accord avec cela. Elle fait une restriction et maintenant, elle doit travailler. C'est-à-dire que maintenant, de sa part, elle doit aussi... La création doit être quelque chose qui nous fait atteindre l'équivalence de forme avec le Créateur. Par conséquent, l'intention afin de donner est ce qu'elle va maintenant établir. D'accord.
Amen.